7h41 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Lorsque l'on cherche des chercheurs français, eh bien, on les trouve. La menace de faire baisser les budgets de la recherche a provoqué une tribune signée par 7 prix Nobel et une médaille FIDE. Cette tribune a eu un effet immédiat. Avant-hier, François Hollande a annulé cette baisse prévue de budget. Pour autant, le malaise dans la recherche demeure. Les appels se multiplient dans le monde aujourd'hui. J'en ai vu un, par exemple, qui porte sur l'utilité des sciences sociales. L'autre article, toujours dans le monde d'aujourd'hui, porte sur ce fameux algorithme qui est censé sélectionner et orienter les étudiants à l'université. Bref, on voit qu'un malaise prédomine aujourd'hui dans la recherche. On va en parler tous ces matins avec notre partenaire du jour, Philosophie Magazine, et Martin Legros, le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, puisque votre journal, Martin, célèbre son 100e numéro. Et puis, nous sommes en compagnie pour aborder la question de la recherche d'Yves Laszlo. Bonjour. Vous êtes un grand mathématicien, vous avez comme spécialité la géométrie algébrique, vous avez cherché à comprendre les solutions des équations algébriques de divers points de vue, de leur géométrie, de leur arithmétique, pour l'étude des solutions en nombre entier, voire de la physique mathématique. Vous avez été chercheur au CNRS, puis ensuite professeur à l'UPMC, à l'école polytechnique, à l'université Paris-Sud. Et maintenant, vous êtes directeur adjoint sciences de l'école normale supérieure de Paris. Yves Laszlo, aujourd'hui, la recherche française se porte-t-elle bien ?
Alors, évidemment, je vais faire des réponses complexes. La recherche française a de magnifiques succès, que ce soit dans les grandes distinctions internationales. L'école mathématique française est reconnue, régulièrement distinguée. Vous avez parlé de médailles FIDE. 10 médailles FIDE sortent de l'école normale, une belle école mathématique, des prix Nobel, encore le prix Nobel récent en économie, des succès aux appels d'offres très compétitifs de l'Union européenne, les fameuses ERC, des succès mais qui sont à relativiser parce que nous ne sommes pas tout à fait en tête des pays européens dans ces succès, mais on a des succès là-dedans. Bien. Alors, de ce point de vue-là, la recherche a de très beaux succès. On pourrait dire qu'elle se porte bien. Il y a de beaux résultats qui sortent de nos laboratoires. Il y a de la magnifique science qui se passe, de la science fondamentale. On a participé à cette magnifique aventure des ondes gravitationnelles qu'on a vues beaucoup dans la presse, par exemple. Il y a de la très belle science. Il y a de la science qui est valorisée également dans les entreprises, dans la création de start-up qui se développe. Mais la recherche souffre. Je pense que la recherche souffre. La recherche souffre dans un contexte général du pays qui souffre. On connaît la situation budgétaire générale, on connaît la situation de l'emploi avec au moins 5 millions de personnes qui sont, on peut dire, chômeurs. Donc un pays qui souffre, mais une recherche qui souffre et une recherche qui est l'avenir de notre pays et qui est justement ce qui permettra à notre pays de progresser et de donner justement des emplois, notamment à nos enfants. Je voudrais juste finir là-dedans. La recherche souffre. Elle souffre de plusieurs maux. Elle souffre d'un sous-financement chronique par rapport aux grands pays industrialisés. Je relisais ce matin les statistiques de la Banque mondiale du financement de la recherche publique et privée, recherche et développement, donc qui va jusqu'à l'innovation. Des grands pays industrialisés, la France tourne autour de 2,3%, un petit peu plus, les États-Unis, l'Allemagne autour de 3%. Et puis, la Corée est à 4%, en fait 4,15%. Donc, ce qui montre un problème énorme. Le deuxième point, c'est que nous avons une érosion constante des dotations budgétaires, dotations des organismes, dotations des universités, dotations de tous les centres de recherche. Donc, nous avons énormément de mal à financer la recherche. Le budget de l'ANR s'est effondré. Je dis bien effondré.
L'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et il faut expliquer en quoi l'ANR est à la fois importante et en quoi elle est désormais une innovation importante, puisque finalement l'ANR est un organisme auprès duquel les chercheurs doivent demander des crédits, donc il faut monter ce qu'on appelle des dossiers ANR, qui sont des dossiers extrêmement complexes, extrêmement fournis, et Yves Laszlo, beaucoup de chercheurs se plaignent de passer leur vie à chercher des dossiers ANR.
Oui, alors je voudrais juste expliquer le financement de la recherche en France est extrêmement complexe. En fait, il est complexe dans le monde entier, mais en France, il est particulièrement complexe. Nous avons des financements qui viennent des organismes de recherche, des institutions de recherche comme la mienne, l'École normale ou dans les universités. Ces financements soit sont visibles, l'argent qui va dans les laboratoires qui leur permet d'acheter tel produit, d'entretenir telle machine. Ils sont parfois invisibles, bien considérables, c'est-à-dire c'est les bâtiments, les personnels, l'entretien, le chauffage, les fluides, etc. Ça sont des budgets absolument considérables. Et puis, il y a l'argent qui permet de financer des projets de recherche où on candidate sur des agences de financement. L'Agence nationale de la recherche en est une. Elle apporte environ actuellement 450 millions d'euros dans les labos, ce qui est très très peu. Le financement de l'ANR s'est effondré, il y a eu plus de 20% qui est parti. Alors, on a dit qu'il est arrivé dans les organismes de recherche. En fait, on n'a pas beaucoup vu dans les labos.
Vous soulignez l'importance économique du secteur de la recherche, et c'est vrai qu'en France, par exemple, ça représente 500 000 emplois, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est réductible à une poignée de stars, en quelque sorte, Yves Laszlo. Néanmoins, du point de vue de l'ENS, qui demeure l'une des institutions d'élite, est-ce qu'on n'a pas un effet de perspective? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un système de la recherche à deux vitesses, c'est-à-dire des institutions qui sont extrêmement bien dotées, telles que l'École normale sup, et puis d'autres qui sont de plus en plus paupérisées?
Alors, il y a des différences de financement qui relèvent sur une grande hypocrisie, c'est-à-dire qu'on veut traiter toutes les institutions en France de la même manière. Il y a plus de 80 universités, il y a plus de 400 écoles, etc. Donc, relève d'une hypocrisie. Le financement de l'École normale, si on compare à nos homologues étrangers, nous ne sommes franchement pas dans des financements comparables. Nous avons également des difficultés de financement, mais nous en avons moins peut-être que certaines universités, je ne dirais pas. Le point, c'est qu'il y a une difficulté globale de financement et une complexification du système extrêmement grande, car je voudrais juste prendre un mot. On a parlé de l'Agence nationale de la recherche pour le financement des projets de recherche, mais il y a bien d'autres sources de financement. En France, par exemple, on peut essayer de se faire financer auprès de la région, par exemple, la région Île-de-France. J'aimerais que la région Île-de-France finance la recherche au même niveau que d'autres régions comme Rhône-Alpes. Si on compare par rapport au budget, on est presque un facteur 2 de moins, tout simplement parce qu'on a débuté trop tard. Donc il y a eu des progrès qui ont été réalisés, mais il faut aller plus loin. On peut candidater auprès de différentes autres sources de financement, par exemple les financements européens qui donnent des financements beaucoup plus substantiels mais qui sont extraordinairement compétitifs. Donc il y a une espèce, les gens disent, une jungle finalement de sources de financement qui entraîne effectivement beaucoup de dossiers à remplir. Et le dernier point, je voudrais insister sur le rôle qu'ont eu les investissements d'avenir, qu'ont apporté un peu de souffle et de financement à long terme dans un système qui, bien souvent, est pas loin d'être exsangue.
Une question de Martin Legros de Philosophie Magazine, qui est notre partenaire ce matin.
Oui, Yves Laszlo, on comprend très bien que la légitimité que les chercheurs tirent la sonnette d'alarme, et ils ont même parlé d'un suicide collectif, mais tous ces chercheurs sont issus de très grandes écoles. Ce que je me demandais, c'est est-ce que la France ne souffre pas à un âge de mondialisation du savoir et d'une économie de l'innovation, d'une sorte de série de partage entre les grands centres de recherche et l'université, entre l'université et le CNRS qui est le grand centre de recherche? Et que, est-ce que ces partages du fonctionnement de la science qui ont une grande histoire en France ne rencontrent pas la butée d'une mondialisation qui exigerait un système totalement souple? Vous en parliez à l'instant. Essayer de faire circuler à la fois l'argent, mais aussi le privé et le public. On a l'impression qu'en France, le privé n'est pas très... alors que recherche et développement aujourd'hui dans une entreprise, c'est ce qui fait vivre une entreprise. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en France en particulier qui fait que les partages qui ont été faits rencontre le problème de la mondialisation de la science.
Si, vous avez tout à fait raison. Nous sommes le terrain de jeu de la science est mondial. Donc nous affrontons une compétition mondiale et nous n'avons pas les moyens d'affronter cette compétition. Je pense que les choses sont claires. Donc
vous en sortez pas trop mal pourtant, puisque la France est quand même au 4e rang pour le système européen de brevets, au 6e rang pour la part mondiale de publications scientifiques.
Oui, mais je pense que il faut voir que nous avons un certain nombre de talents qui partent à l'étranger, de plus en plus de chercheurs qui partent à l'étranger. Nous continuons à attirer des chercheurs qui viennent en France, notamment grâce au fait qu'on arrive à embaucher des chercheurs jeunes, mais ensuite, il faut regarder le solde. Il est très bon que des chercheurs français partent à l'étranger. C'est absolument indispensable que nos jeunes aillent voir ce qui se passe ailleurs. Mais après, il faut regarder le solde. Et petit à petit, on s'aperçoit que le solde devient négatif. Et on voit un mouvement très très clair de défaut de compétitivité de la recherche. Les chiffres que je donnais sur la part de la richesse nationale consacrée à la recherche et développement sont particulièrement éloquents. Je voudrais simplement juste préciser un point. Vous avez dit les centres de recherche, les organismes de recherche et les universités. Les universités sont des centres de recherche. La recherche se fait dans les universités grâce à l'appui des organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, INRIA, il y en a beaucoup d'autres, grâce aux agences de financement. Donc la recherche se fait dans les universités, les écoles.
Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas une hypocrisie? Parce qu'on parle toujours d'enseignants-chercheurs, mais on sait qu'il y a là aussi de plus en plus de difficultés pour des enseignants qui ont beaucoup de tâches administratives à faire de la recherche. Est-ce que l'idée qu'on peut être les deux à la fois est véritablement observée sur le terrain, Yves Laszlo, vous qui êtes mathématicien?
Écoutez, je pense que c'est une richesse formidable de faire de l'enseignement et de la recherche. L'enseignement doit se nourrir de la recherche et la recherche se nourrit de l'enseignement et des étudiants. Le problème, c'est le volume des tâches. C'est celui-là, le problème, c'est le volume des tâches. Et le deuxième problème, c'est la fluidité entre des moments où on fait plus de recherche, des moments où on fait plus d'enseignement, etc. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir faire de la recherche. Et d'ailleurs, à l'école normale, il y a une compétition pour que pour les CNRS qui cherchent à enseigner dans nos formations pour pouvoir expliquer leurs travaux à nos étudiants, etc. Ils cherchent à enseigner dans nos formations.
Vous évoquiez le solde, en quelque sorte le solde migratoire, les étudiants qui viennent étudier en France et les étudiants français qui vont non seulement étudier mais parfois même travailler à l'étranger. Est-ce qu'il est difficile, par exemple, pour vous, à l'école normale supérieure, de conserver vos thésards, de leur dire de candidater sur des postes en France? Est-ce qu'ils vont aux États-Unis, ailleurs, Yves Laszlo?
Comme je vous dis, je n'ai absolument pas la volonté de garder les normaliens dans les laboratoires de l'école normale pour faire leur thèse. Une partie font leur thèse à l'école normale, c'est bien naturel, mais une bonne partie vont dans les universités de la France entière et vont à l'étranger. Et c'est absolument indispensable, comme je disais. Et le point, c'est qu'il faut qu'on attire.
Non, donc au niveau qu'ils y aillent, d'accord, mais est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Il y a eu un rapport il y a 2 semaines sur la fuite des cerveaux en France. On a tous en tête des chercheurs d'excellence qui sont allés notamment aux États-Unis pour travailler. Est-ce que vous avez du mal à offrir des solutions?
Oui, alors c'est pour ça que je voudrais. C'est pas au niveau doctoral, c'est après quand les gens cherchent des postes permanents, quand ce sont des chercheurs plus confirmés, on a des problèmes de compétitivité absolument très important avec, vous avez cité les États-Unis, mais on pourrait dire aussi parler de la Suisse, on pourrait parler aussi de l'Allemagne, à la fois en termes de salaire et également en termes d'environnement de la recherche. Quand un chercheur arrive, et là je voudrais rentrer dans des concrets si vous voulez bien, quand un chercheur arrive, s'il est en sciences expérimentales par exemple, il a besoin d'énormément d'argent, souvent ce sont des sommes 1 million, 2 millions. On commence à arriver grâce à des coopérations avec PSL, Paris Sciences Lettres Université, Université de Recherche dont on est membre, une coopération avec PSL, avec le CNRS, École Normale, à arriver à faire ce qu'on appelle des packages pour attirer des gens, mais on est complètement en retard par rapport à ce qui se fait à l'étranger.
Merci beaucoup. Yves Laszlo, vous êtes donc directeur scientifique de l'ENS. Merci de nous avoir exposé ce qu'était votre quotidien et vos difficultés de chercheur et aussi d'enseignant. On entendra à 8h15 le point de vue, cette fois-ci, des sciences sociales et des sciences humaines sur ce même thème pour voir si elles aussi, ces sciences humaines, rencontrent ce type de difficultés. 7h55 sur France Culture.